Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Boris Johnson veut des élections le 12 décembre, condition selon lui pour accorder plus de temps aux députés et repousser le Brexit. On entendra le Premier ministre britannique en début de journal. Et toujours au Royaume-Uni, l'enquête se poursuit après la découverte des 39 corps dans un camion frigorifique. Nous aurons les derniers détails avec Otsoufi sur place. La crise ne s'apaise pas en Bolivie, où le président sortant Evo Morales revendique la victoire, même si on ne connaît toujours pas les résultats définitifs. Pour en parler avec nous dans ce journal, le sociologue bolivien Hugo José Suarez. Et puis la France, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, elle a largement dépassé les seuils d'émission de dioxyde d'azote dans l'air, et ce depuis une dizaine d'années. Y aura-t-il des élections au Royaume-Uni le 12 décembre ? C'est en tout cas ce que souhaite Boris Johnson, qui appelle à des élections générales à cette date. Selon lui, si les députés veulent plus de temps pour étudier l'accord du Brexit, ils doivent accepter un nouveau scrutin. Scrutin qui doit cependant avoir l'accord des travaillistes. Quant à l'Union européenne, elle doit toujours annoncer si elle consent ou pas à un nouveau report du Brexit. Une nouvelle réunion des 27 est prévue demain matin à Bruxelles. On écoute Boris Johnson.
Le seul moyen pour que ce soit fait, pour qu'on parvienne au Brexit, c'est d'être, à mon avis, raisonnable avec le Parlement. Si les députés veulent sincèrement plus de temps pour étudier cet excellent accord, qu'ils le prennent. Mais ils doivent accepter une élection générale le 12 décembre. C'est le meilleur moyen d'avancer parce que ce Parlement est en place depuis longtemps, sans majorité, et il refuse d'entériner le Brexit, de faire passer des lois. Honnêtement, c'est le moment pour les députés de l'opposition d'avoir du courage et d'accepter de se soumettre à la décision de notre patron à tous, le peuple.
Mais le chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, lui a répondu. Il dit attendre la décision des 27 sur la demande de report du Brexit pour écarter définitivement le risque d'un no deal. Et toujours au Royaume-Uni, l'enquête se poursuit après la découverte hier de 39 corps dans un camion frigorifique. Les victimes sont toutes chinoises. Le chauffeur du camion est pour l'instant le principal suspect. Il est toujours interrogé. Sa garde à vue a été prolongée. Le reportage d'Otsoufi à Grace, près de Londres.
La police a toujours pour priorité numéro 1 d'identifier ces 31 hommes et 8 femmes, tous chinois. Les corps vont être autopsiés pour déterminer la cause du décès de chacun. Dans les lieux de culte de Grays, des veillées sont organisées en mémoire des victimes.
C'est tragique, vraiment terrible, oui, c'est tellement triste. Ils cherchaient évidemment une meilleure vie.
C'est horrible, difficile à croire quand ça se passe là où vous travaillez tous les jours.
Les enquêteurs cherchent à comprendre comment ces personnes se sont retrouvées dans un camion frigorifique immatriculé en Bulgarie et arrivé de Belgique sur le territoire britannique dans la nuit de mardi à mercredi. Le chauffeur a récupéré la remorque au port de Purfleet moins d'une heure avant sa découverte dans la zone industrielle de Waterglade à Grays. L'homme de 25 ans a été arrêté hier et cet après-midi, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Trois adresses ont été perquisitionnées en Irlande du Nord, d'où il est originaire. L'enquête ouverte par la police de l'Essex hier est la plus grande affaire de meurtre de son histoire. Elle dépasse désormais les frontières puisque les autorités chinoises, belges et bulgares y sont associées. Des réseaux de crimes organisés pourraient être impliqués. L'Agence nationale contre le crime travaille donc aussi sur le dossier.
Otsoufi, l'exhumation de la dépouille de Franco a commencé aujourd'hui en Espagne. Le cercueil du dictateur espagnol doit être extrait de son mausolée monumental pour être transféré dans le même cimetière que son épouse au nord de Madrid. La crise est loin de s'apaiser en Bolivie, où deux camps s'affrontent depuis dimanche dernier. Les partisans du président sortant Evo Morales d'un côté et ses opposants de l'autre avec son adversaire Carlos Mesa. Des tensions dues au décompte des votes qui fait polémique. Décompte qui a été interrompu dimanche soir pour finalement donné Evo Morales vainqueur dès le premier tour. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus, mais les deux camps promettent de ne rien lâcher. Avec nous pour en parler ce soir, le sociologue bolivien Hugo José Suarez. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie à l'Université nationale autonome de Mexico et chercheur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Hugo José Suarez, le président sortant Evo Morales a donc revendiqué la victoire, mais il laisse la porte ouverte à un éventuel second tour. Suffisant selon vous pour apaiser les protestations ?
Il ne laisse pas la porte ouverte au deuxième tour. Lui, il a dit qu'il a déjà gagné. Et alors, il a dit que c'est fini le processus et que lui, il doit être le président dans le premier tour. Le problème, c'est exactement ça, qu'il n'a pas accepté la possibilité d'un deuxième tour. Ça, c'est le problème maintenant de la Bolivie.
Donc, pas d'apaisement des protestations en vue dans les prochains jours.
beaucoup de protestations. C'est le moment peut-être le pire depuis une décennie, des années, de la confrontation en Bolivie. Il faut bien dire que maintenant, la Bolivie sait qu'il est en train de vivre. C'est un processus de décomposition du scénario politique. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est une confrontation qui finalement, c'est le résultat de différentes actions qui sont venues depuis quelques années, qui finalement, ils sont déclenchés dans cet moment, que c'était un moment vraiment terrible pour la Bolivie, qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va sortir de là.
Et quelles sont les racines de cette crise alors ?
Le racine, à mon avis, c'est de cette décomposition, c'est d'abord que le président Evo Morales, il n'a pas répondu de façon positive au référendum de 2016, dans lequel la population, il avait dit déjà qu'il ne devait pas être candidat une deuxième fois. Donc là, il n'a pas accepté le résultat. À partir de ça, il a commencé l'indignation populaire que maintenant on voit dans la rue. Mais ça, c'était seulement le premier moment. Après ça, il a eu un processus électoral tout à fait vicié, dans lequel on a pu voir comment est-ce que le gouvernement il a utilisé tout ce qu'il avait dans l'État pour faire des élections vraiment favorables à son candidat. Et même s'il a eu vraiment tout l'appui de l'État, il a utilisé les fonctionnaires, il a utilisé toutes les sources de l'État, il a essayé de contrôler tout ce qu'il avait dans ses mains. Même si c'était comme ça, il a eu le pire résultat depuis des années des élections. Avant, il avait eu toujours beaucoup plus d'appui populaire et maintenant c'est le pire résultat. Le troisième moment, que c'est le moment dans lequel ça déclenche d'une façon beaucoup plus forte, c'est que la manière de gérer le jour même des élections était très mal fait, avec beaucoup de problèmes. Spécialement parce que dans la nuit, il devait donner des résultats plus ou moins clairs. Il a donné ce que c'est tout le monde, mais à la fin, il a coupé le processus de voir la votation. Et après, il a ressorti avec un résultat tout à fait différent de ce qu'il avait un jour avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de déconfiance. Et c'est pour ça que maintenant que les gens ils sont dans la rue.
Et quels sont les risques pour la Bolivie si les tensions ne s'apaisent pas?
À mon avis, on peut vraiment aller vers une vénézuélisation de la Bolivie, et parce qu'on peut avoir des confrontations très fortes avec deux groupes, deux positions et jusque-là, ils sont irréconciliables. La position du gouvernement qui dit qu'il a gagné et que donc il ne doit pas avoir deuxième tour, la position de l'opposition qui dit qu'il doit avoir un deuxième tour parce que sinon ils vont être dans la rue. Le problème, il est maintenant là, et à mon avis, la seule solution, c'est d'avoir un deuxième tour. S'il n'y a pas un deuxième tour, on risque d'une confrontation et qui peut avoir de morts et de résultats terribles pour la Bolivie.
Donc selon vous, seul un deuxième tour peut apaiser la situation?
Absolument. Je pense vraiment qu'on est dans un moment dans lequel un peu moins de la moitié de la population appuie le président Morales. Et la majorité de la population, il n'a pas de confiance dans les résultats qui sont donnés à partir de l'institution électorale. L'institution électorale, il n'a plus la légitimité et la confiance dans la population bolivienne. Donc seulement un deuxième tour, et un deuxième tour qui doit être contrôlé par des institutions internationales, avec la participation et l'observation des institutions internationales, à mon avis, ce serait la seule façon de résoudre un peu le problème. Si après de cette deuxième tour, le président Morales, il est élu, avec cet résultat, il pourrait être beaucoup plus légitime pour gouverner la Bolivie avec un certain appui, mais surtout avec une institutionnalité un peu plus formelle. Et s'il n'est pas élu, il doit absolument laisser le gouvernement et laisser passer à Carlos Mesa, qui normalement il pourrait avoir gagné les élections. Donc c'est la seule façon de résoudre, à mon avis, la situation bolivienne maintenant.
Merci Hugo José Suarez d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, notamment chercheur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Emmanuel Macron ne craint pas le risque de conflit d'intérêts en proposant Thierry Breton comme nouveau membre français à la Commission européenne. Après le rejet de Sylvie Goulard, le président assure que l'actuel PDG du groupe Atos a les compétences et l'expérience requises Plusieurs responsables politiques sont montés au créneau, comme Yannick Jadot, qui font remarquer que le groupe Atos est un fournisseur de services informatiques auprès de l'Union européenne. La France, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne à faire des efforts pour limiter les émissions de dioxyde d'azote dans une dizaine de zones, comme Paris, Marseille, Toulon, Lyon ou Clermont-Ferrand. Partout où la France a, depuis 2010, systématiquement dépassé le seuil limite de ce gaz polluant, seuil prévu par la directive européenne sur la qualité de l'air, et ce malgré une décennie de mise en garde de la part de la Commission européenne. Alors en mettant l'accent sur ce manquement, la justice européenne pointe non seulement un problème environnemental, mais aussi, et c'est lié, un problème de santé publique. Laura Lavenne.
Un problème de santé publique qu'incarne à lui seul le dioxyde d'azote, un gaz issu des voitures diesel et dont les effets sur la santé sont largement sous-estimés selon le docteur Thomas Bourdrel. Il fait partie de l'association Santé Environnement France.
Ce fameux NO2, donc le dioxyde d'azote, c'est un gaz extrêmement toxique qui va être responsable de bronchiolite et de maladies asthmatiques chez l'enfant. Chez le nouveau-né, on sait que ça va altérer sa croissance de ses poumons. Et on sait maintenant que ce dioxyde d'azote, il va favoriser en fait la survenue d'infarctus et également d'accidents vasculaires cérébraux. Mais c'est également un des principaux précurseurs d'ozone.
Médecin, mais aussi fondateur du collectif strasbourgeois Respire, il estime qu'il faut limiter, voire totalement interdire la circulation des diesels. Ce à quoi s'est engagé la ville de Strasbourg à l'horizon 2025. Mais il s'agit maintenant d'aller plus loin. Partout, sur tout le territoire français. C'est en tout cas le sens que Thomas Bourdrel donne à la condamnation en manquement de la France.
Moi, je pense que la Cour européenne de justice envoie un message en disant aux citoyens, l'air que vous respirez à Strasbourg, à Paris, à Marseille n'est pas légal, vous avez un pays qui ne fait pas assez, donc saisissez-vous de la justice.
De son côté, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, assure que le gouvernement est déterminé à améliorer rapidement et durablement la qualité de l'air, que des actions ont été engagées et que d'autres suivront, suffisant ou non, ce sera à la Commission européenne d'en juger.
Laura Lavenne. Emmanuel Macron toujours en visite à La Réunion où des heurts ont éclaté entre une centaine de personnes et des forces de l'ordre ce soir. Une visite sous tension donc pour le président qui fait face à un fort mécontentement sur place. Il a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures d'aide à l'emploi, notamment une extension à toute l'île du dispositif des emplois francs, la possibilité de cumuler RSA et emploi à temps partiel et le maintien de 12 000 emplois aidés par an. LCI fermement mise en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après la diffusion en intégralité par la chaîne d'information en continu d'un discours d'Éric Zemmour. Cette mise en garde n'est pas une sanction mais une mesure préalable à une éventuelle mise en demeure. Et par ailleurs, le CSA a annoncé avoir fait un signalement auprès du procureur dans le cadre de l'enquête ouverte pour injure publique et provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence. Éric Zemmour a prononcé ce discours le 28 septembre dans le cadre d'une convention de la droite organisée par des proches de Maréchal Le Pen. Des dérivés d'hydrocarbures dans les laits en poudre pour bébés. C'est ce que l'association Foodwatch a trouvé en faisant faire des tests en laboratoire. Elle demande le rappel immédiat de ces laits en poudre de marque Nestlé et Danone. Selon l'association, s'il n'y a pas de danger immédiat pour les bébés, la présence d'huile minérale représente tout de même un risque pour la santé. Foodwatch avait réalisé une première série de tests il y a 4 ans et selon ses résultats, 60% des aliments de grande consommation testés étaient contaminés par ces huiles minérales, dérivés du pétrole et réputés cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. Écoutez Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, interrogée par Anne-Laure Chouin.
Alors c'est une contamination qui est complexe dans le sens où il peut y avoir plusieurs sources de contamination. Une des hypothèses, c'est que ça vienne des emballages. Dans les tests qu'on avait fait en 2015, ça pouvait venir des emballages en carton, par exemple des colles, des encres que l'on retrouve dans les emballages et qui ensuite migrent et contaminent les aliments. Mais on sait aussi par les experts que ça peut venir de lubrifiants dans les machines agro-industrielles, ça peut venir d'huile dans les camions, dans les transports. La réalité, c'est que les industriels savent très bien comment l'arrêter et saurait faire, même s'il y a plusieurs sources de contamination, c'est la responsabilité des fabricants et des distributeurs de s'assurer que, à la fin du fin, dans les produits qu'on va consommer, qu'on va donner à nos enfants, qu'on va manger nous-mêmes, il n'y a pas de substances dangereuses pour la santé. Donc ce que l'on demande, c'est la même chose depuis 4 ans, c'est que les industriels, à commencer par Nestlé et Danone, mais tous les autres, s'engagent à ce que dans leur chaîne de production, ils fassent en sorte qu'il n'y ait pas du tout de présence détectable de ces dérivés de pétrole, ces huiles huiles minérales dans les produits alimentaires qu'ils vendent. Et bien sûr, ce qu'on demande également, c'est une réglementation, d'abord en France, parce que ce serait facile pour le gouvernement de prendre une décision interministérielle pour protéger la santé des citoyens, et aussi en Europe, parce que Foodwatch se bat toujours pour que ce soit les mêmes règles en Europe, les mêmes règles pour les entreprises, les mêmes règles pour protéger les consommateurs.
Et Danone et Nestlé ont chacun répondu par communiqué. Danone que ces contrôles n'avaient pas révélé de traces de ces huiles dans les produits incriminés, et Nestlé que ces produits pouvaient être consommés en toute sécurité car conformes à toutes les réglementations françaises et européennes en matière de sécurité des aliments. Le temps demain, plus aucun département placé en vigilance orange, un ciel gris sur une large partie du pays, à part autour de la Méditerranée et près des Pyrénées où le soleil s'imposera. Quelques pluies sont à prévoir sur la Bretagne et le long des côtes de la Manche. Les températures en matinée, il fera entre 8 et 13 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 16 degrés autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia et Marie-Claire Oumabadi à la technique.